Bienvenue à chacun et chacune dans ce lieu de retrouvailles et de recueillement. Nous sommes ici ensemble pour nous tourner vers Dieu, lui qui nous connaît par nos noms et nous accueille tels que nous sommes. Que ce moment devienne le temps pour retrouver la source, pour nous rappeler qu'avec nos sœurs et frères ici présents et le Seigneur au milieu de nous, nous ne sommes pas seuls. Je vous invite à vous relever. Écoutez cette bonne nouvelle. La grâce de Dieu vous est offerte sans condition. Cette grâce nous précède, elle nous entoure et elle nous relève. Amen. Oui, Seigneur, encore aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce pour un jour nouveau. Tu es avec nous. Tu es avec nous dans les moments de joie et aussi dans les moments de doute. Merci pour les gestes d'amitié déjà accomplis. Merci pour les repas partagés. Merci pour les paroles échangées. Nos cœurs s'ouvrent dans cette assemblée où chacun a apporté et apporte son histoire, apporte ses espoirs, apporte ses combats, ses prières. Nous te louons, Seigneur, pour ta bonté. Accueille notre reconnaissance et fais de nous des témoins. Là où nous sommes, nous, où nous vivons et où nous travaillons. Amen. Toujours debout, je vous invite à prendre votre recueil. Il s'agit du 2102 pour y chanter les trois strophes et vous trouvez ce chant, page 231, ce chant sera précédé à l'orgue, puisque vous constaterez qu'il n'y a pas la partition sur cette page. Mais il est connu normalement. Page 231.
Pour nous le baptême de ton Saint-Esprit. Tu l'as promis à tous ceux qui te le demanderont avec toi, foi. Nous te le demandons aujourd'hui pour nous. Esprit de lumière et de vérité, dirige-nous dans toute ta vérité et fais-nous discerner ta volonté. Esprit de conseil et de force, soutiens-nous dans nos luttes et nos tentations et rends-nous vainqueurs. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Au premier jour de l'Église, tu as inspiré le témoignage des apôtres. Fais de nous aujourd'hui des témoins fidèles de l'Évangile. Amen. Et nous prenons le chant 2105. 2105, page 233, la strophe 1. Connaît chacun de nos pas, les hésitants comme les assurés. Il voit nos erreurs, nos silences, et il répond avec grâce. Aujourd'hui, il nous rappelle que ses bras sont toujours ouverts, que nos fautes ne sont pas plus grandes que son amour. Prenons ce pardon comme un nouveau souffle, un élan vers une vie renouvelée. Amen. Et nous pouvons chanter la deuxième strophe du 21-05.
Écoutons l'expression de la volonté de Dieu. Voici quelques recommandations dans quelques extraits d'un texte qui s'appelle la Didaché, qui servait à la fin du 1er siècle de notre ère ou au début du 2e à enseigner les Juifs qui avaient la particularité à cette époque d'avoir trouvé en Jésus de Nazareth leur Messie. Tu ne désireras pas la division, mais tu apaiseras ceux qui se disputent. Tu jugeras avec droiture. Tu ne feras pas exception de personne quand il s'agira de convaincre quelqu'un de transgression. Tu n'auras pas le cœur partagé entre les suites de tes décisions. N'aie pas les mains tendues pour recevoir et fermées pour donner. Tu n'hésiteras pas à donner et tu ne murmureras pas en donnant. Tu ne te détourneras pas de celui qui est dans le besoin, mais tu auras tout en commun avec ton frère et ta sœur, et tu ne diras pas que cela t'appartient en propre. En effet, si vous participez en commun à ce qui est immortel, combien plus aux choses périssables. Ne t'éloigne pas de ton fils ou de ta fille, mais dès la jeunesse, enseigne-leur la présence de Dieu. Tu haïras toute hypocrisie et tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur. Tu n'abandonneras pas les commandements du Seigneur, mais tu garderas ce que tu as reçu, sans y rien ajouter, ni en rien retrancher. Et nous poursuivons dans le même chant, 21-05, à la strophe 3, 4 et 5, les trois dernières strophes. 3, 4, 5, page 233.
Oh, Et avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, nous voici rassemblés pour recevoir ta parole. Que nos esprits s'apaisent et que nos cœurs se préparent, comme la terre prête à accueillir la pluie. Conduis-nous sur un chemin de vérité et de paix. Amen.
Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les actes? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre nous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les actes, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les actes. Montre-moi la foi dans les actes, et moi, je te montrerai la foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les actes est inutile ?»
Après Jacques, nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 27. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples « Au dire des gens, qui suis-je ?» Ils lui dirent « Pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Lui leur demandait « Et pour vous, qui suis-je ?» Pierre lui dit « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroie pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. »
Sa lecture de la lettre de Jacques, que vous n'avez pas sur votre feuille, vous avez entendu que Jacques disait « homme vain » dans sa finale. « Homme vain » et certains traduisent par « tête creuse ». Littéralement, c'est « homme vide ». Ainsi, Jacques, l'auteur de la lettre de Jacques, traite-t-il tous ceux qui, parmi les lecteurs de sa lettre circulaire, trouverait que la foi est supérieure aux œuvres. Foi, œuvre, c'est déjà un langage, un patois, une problématique que nos contemporains ne comprennent presque plus. Alors, essayons déjà de faire un effort de traduction supplémentaire, c'est-à-dire de traduction pour mettre un peu en mode contemporain. Tête creuse, que celle qui pense que croire, donc au Dieu auquel on se réfère, est supérieur, croire c'est supérieur à agir. Agir donc en fonction des commandements de Dieu. Ceux qui pensent cela, d'après Jacques, sont vides. Ou alors, employons une sorte de métaphore, quand aujourd'hui on parle encore d'œuvre, quand on utilise encore le mot œuvre, dans le meilleur des cas, on se réfère à l'œuvre d'art. Cela évoque aussi la question de savoir si l'on peut, vous savez, séparer ou non l'œuvre de l'artiste. Et dans notre contexte, cela pourrait se traduire en mode contemporain, peut-on séparer le pratiquant, comme on dit, du croyant ? Alors on peut garder la métaphore de l'art, car si on transfère la problématique de Jacques, on pourrait dire que serait l'art sans les œuvres d'art. C'est vrai que dit comme ça, il semble que Jacques ait raison et que la prédication pourrait donc ainsi se conclure. Amen. Non. Il y aura ce matin, exceptionnellement, deux parenthèses. J'aime bien dialoguer un petit peu avec l'organiste parfois dans les prédications. Il y aura deux parenthèses théologiques un petit peu à part aujourd'hui. Les deux seront inaugurées et conclues par un bref trait d'orgue. Première parenthèse théologique. Tête creuse, homme vide. On a envie d'y revenir car c'est une insulte en fait très violente. Le mot grec est kénos, qui veut simplement désigner le vide, qui a donné aussi kénosis, en français la kénose, un concept inconnu de la plupart des gens, évidemment, un concept que des théologiens, d'abord protestants entre parenthèses, et anglicans, ont inventé pour trouver un moyen de valoriser ce qu'ils ont appelé le dépouillement radical au travers d'un fils qui a été abandonné sur une croix par son père et donc ce père-là se détruirait lui-même dans cet acte ignoble. Les théologiens ont inventé finalement ce que j'appellerais la vidange du ciel, le vide du ciel. Et pour tout vous dire, si je n'ai pas été assez expressif, je ne crois pas du tout à ce concept. En gros, théologiquement, je ne crois pas au vide. Je me souviens qu'à chaque fois que ce mot apparaissait dans un discours de professeur à la faculté de théologie et que j'en entendais l'explication, je l'oubliais aussitôt, comme si ce concept, que beaucoup ressassaient, pour moi, restait creux et vide. Poétiquement, j'aime bien les concepts qui font ce qu'ils disent, et celui-ci, en l'occurrence, a inventé sa propre vacuité. Creuse ou amateur d'idées creuses, voilà la façon avec laquelle Jacques traite 16 siècles en avance, comme on l'a déjà évoqué la semaine dernière, un certain Martin Luther qui lui rétorquera, et c'est de bonne guerre, que Jacques n'avait écrit qu'une épître de paille, c'est-à-dire une lettre destinée finalement à être brûlée comme de la paille. Mais Luther, on le sait, était un homme brûlant. Bon. Alors, pourquoi tant de haine, me direz-vous? Parce que selon Luther, Jacques valoriserait l'action plutôt que la foi, et la valorisation de l'œuvre, de l'action, selon Luther, correspondait pour lui à la théologie catholique des mérites, les mérites censés être un passeport pour le ciel, un coupe-fil du purgatoire, un ticket VIP appelé indulgence. Or Jacques ne dit pas ça en fait, il n'oppose pas l'action et la foi, comme croit-on a tendance à le faire l'apôtre Paul. Mais attention, Paul, celui qui a écrit des lettres fondamentales, et surtout pour les protestants, La problématique de Paul, l'écrivain biblique, est plus subtile car Paul oppose plutôt la grâce à la loi. Alors, c'est un peu... Encore une fois, ça a l'air un peu comme ça, aérien, mais une loi, en fait, pour Paul, qui a tendance à faire oublier d'où elle vient, cette loi. Par quel moyen elle a été reçue. Et donc le fait que la loi aussi a été reçue par la grâce de Dieu, de son bon vouloir. Ainsi, ce n'est en dernier ressort pas la loi et les actes associés qui sauvent l'humain, mais la grâce. Voilà pour Paul. Jacques, lui, s'embarrasse pas de ces petits détails, fait plus simple. Il conjoint les deux. La foi ne s'exprime que par l'action, par l'acte. Et maintenant, j'ouvre une deuxième petite parenthèse théologique. Quand j'entends le mot « actualité », je ne la dirige pas dans le sens courant qui évoque ce qui se passe. J'estime que l'actualité est une façon universelle de décrire la vie du monde en tant que cette vie est faite de l'acte créateur permanent et que, au-delà de toute pensée, de toute morale préalable, tous nos actes, petits, grands, conscients ou non, font partie de cet extraordinaire concert permanent d'équilibrage, de bouleversement, de destruction, de reconstruction. Et pour moi, l'actualité dont nous faisons partie, c'est le concept théologique par excellence. C'est le mouvement simultané du temps et de l'espace, du déplacement de la fourmi sur un mur jusqu'à l'exécution prodigieuse d'une symphonie dans un moment qui va plus jamais se reproduire. Tout est acte. Et l'actualité, c'est Dieu. Regardez votre corps. Il s'actualise en permanence pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est un autre problème. Cela dit, je n'oblige personne à partager cette vision théologique de l'actualité, mais je la trouve plus dynamique que la conception d'un Dieu du haut de son nuage qui va négocier des signatures de contrats. Pour revenir à notre débat, Jacques réduit en poussière, et là, 20 siècles à l'avance, la fameuse formule « croyant, mais non pratiquant ». Pratiquer, et bien entendu, il ne s'agit pas pour les protestants d'uniquement aller au culte, et ça tout le monde le sait, pratiquer, c'est réaliser, c'est mettre en pratique, c'est donner naissance par son engagement qu'on va comprendre comme radicalement lié à la foi. Cet engagement va nourrir lui aussi cette même foi. Les deux sont réciproques et sont irrémédiablement indissociables. Tu enlèves la pratique, la foi disparaît. De la même façon que tu enlèves le Christ qu'on pourrait appeler l'œuvre de Dieu par excellence, eh bien, il n'y a plus de christianisme. Pas d'art sans œuvre d'art, pas de foi sans l'acte de foi. Et le protestantisme a beaucoup souffert de ce discours de séparation qui opportunément a érodé la nécessité de l'engagement. Croyant mais non pratiquant. Je suis protestant, je suis croyant, mais voilà. Et les églises de type évangélique ont bien compris le problème, dans la mesure où ces églises, tu n'y deviens membre que si tu y es pleinement engagé. En gros, par exemple, si tu es baptiste, et pour moi c'est déjà un grand respect, hein, c'est absolument, il n'y a aucune moquerie dans ce que je dis, et en gros, si tu es baptiste, tu ne peux pas te dire croyant, non pratiquant. Et chez nous, chez les catholiques, dans ces églises dites historiques, c'est possible. Encore une fois, pas de jugement, juste je décris la situation. Ce débat-là évoque un autre concept théologique, mais ce coup-ci sans orgue, que je ne mets pas dans une parenthèse, c'est le concept de l'incarnation. Vous avez entendu parler. Et là aussi, c'est un mot un peu difficile à entendre aujourd'hui, et un peu daté. Vous dites, vous croyez en l'incarnation, aux gens, ils vont vous dire, l'incarnation de quoi? Donc, la théologie chrétienne, jamais en panne d'imagination, a inventé le concept d'incarnation. C'est un concept philosophiquement marqué, et il a été extrait un peu à l'arrache, un peu artificiellement, des données bibliques. Encore une notion que nos contemporains ne peuvent pas vraiment comprendre, ou uniquement, encore une fois, quand on l'évoque dans le domaine de l'art théâtral, par exemple, ce Don Juan, je n'ai pas envie de désigner quelqu'un par ici, ce Don Juan est magnifiquement incarné par un tel. Ça tente de vouloir dire que l'idée de Don Juan est magnifiquement incarnée dans cette représentation. Mais au fond, ce n'est qu'une assertion, une critique. Qu'en sait-on ? Qu'est-ce qu'une idée de Don Juan ? L'incarnation, d'un point de vue théologique, désigne la mise en humanité de la présence divine. Et si l'Évangile parle plus, dans les Évangiles eux-mêmes, plus de reconnaissance d'un fils par son père que d'incarnation, néanmoins, ce concept reste assez pertinent pour comprendre ce que veut dire Jacques, hein, parce que c'est mon but aujourd'hui, avec Marc, mais vous allez voir. En effet, une foi qui prétendrait ne pas s'incarner nulle part, une foi qui ne resterait que dans sa tête, une foi idéale, en fait, n'existerait pas. Je ne sais pas ce qu'elle serait, cette foi, une activité des neurones, peut-être, uniquement. Jacques ne parle pas d'incarnation, puisque ce n'est pas son style, mais disons qu'il n'en est pas loin. Tête creuse, épite de paille, vieille dispute s'il en est, qui nous traverse encore un petit peu. Je vous invite tout de même à garder mon sophisme de départ, pas d'art sans œuvre d'art. Je ne dis évidemment pas, puisque j'ai conscience du sophisme, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, je dis simplement que c'est un bon moyen de comprendre l'extrait de la lettre de Jacques que vous avez entendu. Et à comprendre qu'à force d'éloigner les deux concepts, celui de la foi et celui de l'acte, eh bien l'acte n'a plus de sens et la foi n'a plus de consistance. Et beaucoup de nos contemporains, avant d'oublier complètement le fabuleux trésor de l'Évangile, ont d'abord la sensation d'une foi qui s'étiole. Alors, amen, cette foi ? Non. On peut encore un petit peu poursuivre, car nos artisans de fabrication des listes du jour ont choisi pour aujourd'hui, avec Jacques, ce passage de l'Évangile de Marc que vous avez sur votre feuille. Quand Jésus questionne ses disciples sur ce que les gens et sur ce qu'eux-mêmes disent qui il est, les réponses fusent. Les gens disent ceci, cela, et Pierre, tout à coup, lui répond qu'il est le Christ. Mais comme d'habitude, Jésus les gronde. C'est plus violent en grec, c'est les menaces, leur interdit de parler. En français, les rabroue. Bref, mais il faudrait garder le côté encore plus fort que ça. Il les menace. Leur dit de se taire. Mais pourquoi, bon sang, Jésus les gronde-t-il à chaque fois ? Et là aussi, les réponses ont fusé. Alors, parmi les premières salves de réponses, il y a « parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'en fait, il est le Christ ». Qu'il est en avance, ce Jésus, sur encore une notion inventée par les théologiens et qu'ils ont appelé, à cause de ça, le secret messianique. Jésus n'a pas envie qu'on le sache. Bon. Alors tu parles d'un secret. Si c'est un secret, franchement, il n'a pas été bien gardé. Et ce même du temps de Jésus, la masse de gens qui vont s'agglutiner autour de lui dès le départ. Et puis, cela nous renvoie toujours à une perception d'un Jésus un peu faible. Ne parlez pas. En fait, ils parlent tous. Un Jésus dépassé par tous les événements, que pourtant il provoque. À croire que cette faiblesse présumée a fasciné les théologiens, une sorte peut-être d'inconscience, d'inconsciente jalousie. Hein. C'est mieux un Jésus faible. Moi, personnellement, j'entends ce que je lis. Selon moi, ces textes un peu originaux, un peu primitifs, et bien qu'ils aient été souvent colmatés par des rédactions postérieures, plus conformes à ce qu'on pensait 2 siècles ou 3 siècles plus tard, Jésus leur dit d'arrêter de faire n'importe quoi, en fait, de faire un brainstorming sur ce qu'il est ou sur ce qu'il n'est pas, car cela, selon lui, n'a aucun intérêt. C'est là qu'on rejoint le fil de la prédication. Jésus, oui, n'a jamais dit qu'il était le Christ. Être ceci ou cela, moi je pense, cela n'est, semble-t-il, pas le problème de Jésus. La foi chrétienne ne prendra jamais consistance dans le fait d'admettre qu'il est le Christ. Ou avec une formule encore pire, très proche du vocabulaire des huissiers, d'attester qu'il est le Christ. Mais la foi chrétienne, en revanche, peut prendre conscience dans un mouvement que je vais appeler un mouvement d'exultation, c'est-à-dire de saut, d'évidence, de reconnaissance, qui va reconnaître celui-ci comme Christ. Bref, dans un acte appelé très proprement un acte de foi. C'est le croyant qui fait le Christ, c'est donc l'œuvre du croyant qui le rend Christ, qui le reconnaît comme le Fils de Dieu ou Christ. En d'autres termes, croire, c'est l'acte de reconnaissance. Bref, la foi est une œuvre. Jacques leur dit d'arrêter de spéculer sur son identité. Et pourquoi fait-il ça? Aussi tout simplement que pendant qu'ils spéculent, qu'ils débattent, voire qu'ils se contredisent entre eux, tu es ceci, tu es un tel, tu es Jean, pendant tout ce temps-là, ils ne font rien. Ils ne guérissent pas les malades, ils ne ressuscitent pas les morts, ils ne rendent pas la vue aux aveugles, ni la parole aux muets. Et lui, dans ce moment de l'Évangile, il a encore beaucoup d'œuvres à accomplir jusqu'à l'acte qui fera qu'il sera relevé d'entre les morts. Amen. Voilà arrivé à ce moment du culte où il est temps de faire un choix courageux, soutenir la vie de notre Église. Courageux, c'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, c'est un véritable engagement, une participation à quelque chose de plus grand que nous. Pourquoi devrais-je donner? Eh bien, imaginez simplement un dimanche sans orgue, sans musicienne, sans même un pasteur, et bientôt sans chauffage, ou une salle de culte plongée dans la pénombre à cause d'une facture impayée. Ça n'arrive pas. Soutenir l'Église, c'est aussi permettre à notre Église de continuer à être un lieu d'accueil, de formation, de projet, de vie artistique, de solidarité et de partage. Et ça passe entre autres par vos offrandes, que chacun donne, s'il le veut, selon sa capacité, son plaisir, que cette offrande soit bénie et que l'Évangile soit annoncé. priait une grande paix venant du ciel ainsi que de bonne vie et la satiété et la salvation et le réconfort et la sauvegarde et la guérison et la rédemption et le pardon et l'expiation pour nous et pour tout son peuple et dites Amen. Que celui qui établit la paix dans ses hauteurs l'établisse dans sa miséricorde parmi nous et sur tout son peuple. Que chacun de nous soit conforté dans la présence du Seigneur et vive heureusement la compagnie de ses frères. Que lucidement chacun marche sur sa route en sachant éviter les impasses et trouve l'inspiration et le repos. Que nos bien-aimés soient protégés, que les souffrances soient amoindries, que les deuils s'apaisent et dites Amen. Maintenant, Seigneur, nous voulons placer notre prière au milieu de la vie. Et là, ce n'est plus la didaké, c'est des mots d'aujourd'hui. Notre prière au milieu de la guerre, au milieu, en plein cœur de l'absurde, voire de la cruauté, de la douleur. Nous allons placer notre cœur au milieu du vide, de la compassion et de l'immensité du désespoir. Et nous t'entraînons avec nous, Seigneur, dans ce paysage dévasté où les oiseaux qui chantaient auparavant sont morts ou ont pris la fuite, tous ces territoires de désabusement, de colère, de vengeance. Le moment, ce matin, n'est pas à la prière coutumière, mais à la supplication vers toi, Seigneur, que cette année venant soit celle de la cessation des guerres. Puisses-tu, notre Dieu, enfin réduire au silence non seulement les armes, mais ceux qui les conçoivent et les utilisent, non seulement ceux qui les conçoivent et les utilisent, mais ceux qui les commanditent, et non seulement ceux qui les commanditent, mais ceux qui les vendent, et ceux anonymes qui touchent les dividendes. Viens changer les cœurs et remets-nous au cœur de la réalité. Viens sortir enfin l'humanité orpheline de son enfance terrifiante. Rends la terre paisible à ceux et celles qui veulent la cultiver. Viens ridiculiser ceux et celles qui croient que rien ne les limite. Montre-nous, Seigneur, de nouvelles voies d'irrigation. Libère les prisonniers que nous sommes de notre imaginaire violent. Rends-nous l'espoir et en bénissant des actes qui iront vers l'accomplissement de ta promesse de justice. Et merci, Seigneur. Ensemble, nous voulons te dire maintenant la prière que Jésus a transmise à ses disciples. Notre Père,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Je vous invite à vous relever pour l'exhortation. En partant, souvenez-vous que vous portez avec vous une promesse. Dieu marche à vos côtés, dans l'ombre et sous le ciel clair. Soyez attentifs. Et vous sentirez quand il y aura besoin de tendresse, besoin de justice et d'espoir. Que le Seigneur vous bénisse, tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Amen. Je vous invite à vous rasseoir pour la musique.